Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone au Salon du Livre de Paris, avec un plateau littéraire, poétique, musical, éclectique et avec le public français. Bonjour à tous! Nous irons à Tahiti dans un instant avec la plus grande voix de la littérature tahitienne. Flora Orima de Vatine est très rare à la radio. Elle va vous faire entendre une langue franco-polynésienne. Ils ont publié un livre à deux voix pour la première fois. Les Trublions, Yegor Gran et Nicolas Fargue publient une correspondance caustique et plaintive qui désingue le petit monde littéraire parisien. Place au Maroc aussi, pays invité d'honneur, avec le peintre-écrivain Mahi Binbin qui vous emmènera à la cour du roi et Abdelataya qui analyse la complexité de la vie sociale, deux romans sublimes qui excitent nos libraires. Et puis nous serons avec la grande chanteuse marocaine Indy Zara, célébrée à travers le monde. Elle a accepté de jouer un titre ici pour nous, en public, en exclusivité.
La librairie francophone, émission spéciale. Emmanuel Guérade.
Et en public, quatre libraires, bien sûr, comme d'habitude, une partie en multiplex, une partie ici, on est à Paris, et notre libraire français en a profité pour être en public avec nous sur le plateau. Bonjour Grégoire Courtois.
Bonjour Emmanuel Guérade.
Vous êtes libraire au Salon du Livre de Paris, mais aussi dans la librairie Oblique à Auxerre.
Oui, le plus souvent à Auxerre.
À vos heures perdues, voilà. Elle est venue de Suisse, elle est juste à côté de vous, pour le Salon du Livre exprès, pour le Salon du Livre de Paris. Bonjour Dominique Bressoux.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Boudry, vous, dans la librairie Une Petite Prose. Vous êtes une habituée de ce salon parce que vous étiez déjà là l'année dernière.
Absolument.
À la même place, parfait. Restez là.
Mais il faisait
là.
Plus beau.
Je suis plus beau, pardon ?
Il... Non.
Ah, pardon.
Il faisait plus beau.
Ah, il faisait plus beau, oui, bon. Pour le Canada, c'est le grand terrifiant Jérémy Laniel, qui est libraire à Rosemère dans la librairie Carcajou, bel homme. Bonjour Jérémy.
Pas si terrifiant que ça, quand même.
On verra tout à l'heure. Ça va pour vous ?
Toujours, toujours.
Ok. Et c'est Annick Dor qui représente la Belgique, libraire à la Hulpe dans la librairie de la Mazrine. Bonjour Annick.
Bonjour Emmanuel.
Et bonjour Nicolas Fargue.
Bonjour, bonjour.
Comment allez-vous ?
Mais bien, très bien, merci.
On commence toujours cette émission par une anecdote étonnante, une histoire personnelle racontée par l'un de nos invités. Alors, comme on est sur le Salon du Livre de Paris, on vous a demandé de réfléchir à une anecdote quand vous êtes sur un stand. Il y en a plein autour de nous. Je ne vais pas citer de marques, parce qu'il y a juste des marques. J'avais cité des marques, il y a des marques en face de moi. Mais vous avez signé plein de fois vos romans. Hein. Vous êtes un auteur célèbre, Nicolas Fargue.
Allez, doucement, doucement.
Quelle est l'histoire étonnante ?
Non, en fait, c'est des choses assez banales. C'est d'être pris pour quelqu'un d'autre, en fait. Ça, c'est un grand classique du Salon du Livre.
Ouais.
Il m'est arrivé, il y a quelques années, d'avoir en face de moi quelqu'un d'extrêmement enthousiaste qui m'a dit « J'adore ce que vous faites, qu'est-ce que j'aime vos livres ?» Je dis ah, « ben, merci beaucoup, merci beaucoup. » Et alors là, apparaît le moment où la personne sort le livre que vous allez signer. Et qu'est-ce que je vois en face de moi ? Florian Zeller. Et je dis « Alors là, dans ce cas, vous êtes très gêné, vous vous dites... moi je trouve ça magnifique parce que ça vous remet à votre place. Vous voyez, là on est dans un salon avec énormément de noms d'éditeurs, de noms d'auteurs un peu partout. Voilà, ça nous fait pas oublier que, comme c'est écrit sur le badge de mon co-écrivain, ne pas oublier l'humilité.
Yegor Gran, voilà. Qu'est-ce qui a marqué ouais, ne pas toi. Oublier l'humilité.
Ne pas oublier l'humilité, oui.
On vous a pris pour quelqu'un d'autre, vous, Yegor ?
Ah, plein de fois.
Oui, c'est vrai. Oui.
Malheureusement, pas des gens aussi beaux que Zeller. Mais,
beaux que Zeller. Bon, très bien. Bon, ça va, en tout cas, maintenant, on vous reconnaît à peu près ?
Ah non, non, non. Rassurez-vous, chaque année, on nous prend pour d'autres gens. C'est très bien.
Nicolas Fargue est dans la librairie francophone cette semaine. Et on reçoit la plus grande voix de la poésie tahitienne. Bonjour Flora Orima de Vatine.
Bonjour Emmanuel.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous publiez Au vent de la piroguière, Tifaï Faï, aux éditions Bruno Doucet. Et vous dites que la poésie vous permet de vous exprimer comme vos ancêtres qui le faisaient avec ce que l'on appelle les pari-pari fénois.
Fénois. Le pari-pari fénois est un genre poétique traditionnel parmi les nombreux genres poétiques traditionnels. Mais celui-ci... célèbre la terre, célèbre les hommes, célèbre les faits et gestes des anciens.
Alors vous êtes comme eux, partagés entre l'oralité et l'écriture. L'un ne va pas sans l'autre, en tout cas, à Tahiti.
Je pense que l'écriture intervient après une rupture dans l'oralité du fait de l'histoire de nos îles, enfin de l'histoire traversée par nos territoires d'outre-mer. Mmh. Et l'écriture, c'est la continuité de quelque chose qui a résisté et qui est passé par la poésie.
Il faut laisser des traces, vous dites ça, hein, Flora. Laisser des traces pour montrer son attachement au Fénois. Le Fénois, c'est la terre natale en tahitien.
La terre, ou le pays.
Et vous interrogez comme ça sur l'écriture dans votre livre. Vous montrez cette liberté que procure l'écriture, une liberté comme un enfant sur sa pirogue. C'est d'ailleurs l'un des titres de vos poèmes. Car vous dites, l'écriture s'humanise à l'expression de l'intérieur de soi.
Oui, exactement, vous l'avez bien dit. Alors, cette référence à la pirogue, c'est parce que je suis née et j'ai vécu jusqu'à 17 ans dans la région la plus éloignée de la ville de Papeete, donc en un lieu un peu sauvage, où, au milieu de la nature sauvage, luxuriante des falaises et de tous les temps. Et les déplacements ne se faisaient qu'en pirogue, à rame et puis un petit peu à moteur. Voilà, il n'y avait pas de route.
Et vous vivez toujours là-bas? Sur un
Alors,
atoll?
Non, je n'y vais qu'en villégiature.
D'accord. Alors, vous métissez la langue française de mots polynésiens. C'est important, ça aussi, hein, ce métissage pour garder un lien culturel et composer finalement avec deux cultures, la culture francophone et la culture polynésienne.
Voilà.
C'est ça votre propos?
Oui, oui. Parce qu'en fait, en traversant l'histoire des sociétés, c'est peut-être ce que la France vit actuellement et à laquelle la France est confrontée au niveau des problèmes d'identité. Eh bien, ce sont ces problèmes qui nous ont travaillé au corps et à l'esprit, il y a déjà 20 ans.
Vous voulez bien nous faire entendre cette langue en lisant ces mots que vous écrivez dans votre livre? Il y a un extrait qu'on vous a sélectionné, extrait devant de la piroguière, et c'est en tahitien, et je traduis juste après.
D'accord. Donc, c'est un extrait de ce que nous vivions dans cette partie de la presqu'île de l'île de Tahiti, où nous étions en pleine nature, à confronter aux falaises, à la mer, au vent, etc. Aoué te mitio te parié, te re pa inanouamai, o feto et hap opo, fatita oué noamai.
Et donc ça signifie ô mer du Paris, elle est là à tonner, à résonner, elle s'était agitée violemment, s'était creusée, puis soudainement, sur nous, elle s'était brisée. Très bien, merci beaucoup Flora Orima de Vatine. On va donner la parole à notre libraire suisse Dominique Bressou, qui est juste en face de vous et qui a lu votre recueil de poèmes. Dominique.
Alors moi, en lisant ces poèmes, j'avais l'impression d'entendre chanter dans un environnement foisonnant d'odeurs, de couleurs, de saveurs, que vous parliez d'humeur ou bien de nature ou bien d'écriture. Et en fait, on est toujours en prise directe avec vos émotions dans ces poèmes, votre nostalgie, et ça surtout par les sens. Et moi, même si je n'ai pas saisi la signification de certains mots, au premier abord, j'ai préféré me laisser aller pour les lire.
Et il y a un lexique à la fin de l'ouvrage, c'est Absolument. Ça qui est très réussi. Jérémy, pour le Canada, vous êtes un peu plus sévère, je crois, vous qui défendez la poésie.
Oui, un peu plus mitigé, mais c'est un recueil de poésie qui se lit comme un album souvenir et un peu comme un album photo. Certains poèmes sont plus riches que d'autres. Par contre, la majorité du propos est fascinant, vraiment. Tant les réminiscences du passé que la mythologie qu'elle écrit à même ce passé. Mais malgré tout, le poème, lui, ou du moins la proposition poétique, au-delà du métissage, ça reste assez de base sans jamais s'inviter dans un réel éclatement du langage, à mon avis.
Vous voulez réagir à Flora Rimadotti?
Je respecte toutes les ressentis par rapport à l'écrit, c'est normal. Et je dirais, la dernière observation ne m'étonne pas en ce sens qu'il faut savoir que j'écris aussi bien sur des grands sujets, des grandes questions, que sur le quotidien, sur la vie, la réalité de tous les jours. C'est-à-dire, autrement dit, tout m'émeut, tout me touche et tout m'inspire.
Et c'est vrai que dans ce recueil de poèmes, il est question de l'odeur de la mer, par exemple, du soleil et du sel marin, de la tradition du tatouage, des frêles embarcations et des saveurs. La langue universelle, pour vous, Flora, c'est la langue des saveurs, la langue du goût, la langue du toucher.
La langue des sens, en fait, de tous les sens et même au-delà des sens, des cinq sens nommés. Ce que je veux dire également, c'est que la langue peut paraître tout à fait banale, et c'est vrai qu'elle est banale, mais il faut savoir que derrière tout mot, tout simple, il y a toute une culture, il y a toute une richesse. Et il faut aller creuser. Et le travail que je fais par l'écriture, c'est justement de creuser ma langue. Et plus je creuse, et plus j'entre dans quelque chose de fantastique, enfin, de fantastique, je veux dire, dans un monde qui s'est un peu perdu, mais qui est tellement riche.
Voilà. Oui, et puis il faut préserver ce patrimoine. C'est très important de préserver le patrimoine polynésien et tahitien. Vous pouvez l'applaudir. Et Flora Orima de Vatine. On va écouter le son du monde de la semaine avec une lecture de l'un de vos poèmes, Flora. C'est une surprise pour vous. Poème qui évoque les saveurs de l'Orient. Ce poème s'appelle « Autre exotisme ou invitation à l'Orient ». Alors comme le Maroc est le pays invité d'honneur, c'était tout trouvé. Quand je suis tombé sur ce passage, j'ai dit « C'est incroyable, le destin voilà, nous accompagne ». Alors on a demandé à un grand artiste peintre, un grand écrivain qui vient d'arriver sur le plateau parce qu'il était en conférence juste avant. C'est l'écrivain marocain Marie Binbin. Bonjour Marie.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous serez tout à l'heure avec nous avec Abdelataya. Vous allez lire un extrait. Voici le métissage francophone marocain et tahitien depuis le Salon du Livre de Paris.
Je vous rafraîchirai le palais de mon breuvage d'accueil, framboise orange sanguine, d'amour délicat délicieux par sa texture en bouche et la couleur. Je vous servirai les saveurs généreuses de mon pays, des olives rouges, vertes et roses des trois récoltes. J'apprêterai ma nouvelle table noire et carrée que je garnirai de mets des plus précieux, tagine, beignets divers, coriandre, la chorba. Je vous régalerai de ma soupe de légumes frais et secs, accompagnée d'abricots, dattes et autres merveilles. Quand viendra l'heure du coucher, j'allumerai les trois bougies sur la table, dans la chambre d'amis à la senteur d'ambre, agate, saphir, améthyste, rose, mauve, violine, pierre odorante et tendre, au chevet, je vous enchanterai.
Sur cette musique traditionnelle tahitienne. Vous êtes touchée, Flora Orima.
Oui, je suis très touchée parce que c'est un délicieux souvenir d'un voyage au Maroc, à Rabat, chez Nadia Shafik. Et c'est donc c'est une grande personnalité et je pense que c'est aussi dans l'histoire du pays. Voilà, son père était important.
Voilà, le croisement des cultures comme on l'aime, croisement des cultures francophones. Merci beaucoup, Marie Binbin. Vous pouvez applaudir Flora Orima de Vatine et Marie Binbin. Que l'on retrouve dans quelques instants, hein, puisque vous serez dans la troisième partie avec Abdelataya et Indizara pour cette partie consacrée au Maroc, pays invité d'honneur de ce livre Paris 2017. Flora Orima de Vatine au vent de la piroguière, Tifaï Faï, est paru aux éditions Bruno Doucet, formidable éditeur hein, qui porte la poésie francophone. Merci Flora, à très bientôt.
C'est moi qui remercie.
De Tahiti, on part à Bamako avec le nouveau titre de M depuis le Salon du Livre de Paris dans la librairie francophone.
Comme les doigts dans la prise, te voir danser m'électrise. Peut-être même que ça m'érotise, que j'idéalise. Malice au mali d'énerver, le mali Dieu crée la flamme. Le mali danse dans mon âme. Au niçois qui mal y pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au mali danse, au son des balles de Bamako.
Bye. bateau, en bateau, c'est moi le capitaine. Tu danses pas, sois le croque-mitaine. La voix arrive par la droite, il reste une chance et sois pas maladroite. Fais le décalement, ouais carrément, vire-le, qu'on le fasse légalement. Si tu penses, c'est que c'est possible, aujourd'hui c'est dimanche, demain aussi. Respire sans morosité, douce ou cassini, porosité. Si quelqu'un appelle, dis-lui qu'on se tire un bal réel. Ton bassin fait l'hélicoptère.
Oh, ni soit qui mal y pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au mal y danse, au son des balles de Bamako.
Avec la collaboration d'Oxmo Puccino, Bal de Bamako sur votre radio francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
La librairie francophone est au Salon du Livre de Paris en public aujourd'hui pour cette émission spéciale avec un plateau autour du Maroc, la grande chanteuse Indizara qui chantera tout à l'heure en direct. Et avant cela, la chronique des libraires avec les coups de gueule et les coups de cœur. On commence par un coup de gueule, je crois, avec le caustique Grégoire Courtois.
Ouais, je vais vous apprendre un petit peu le métier de libraire. Il y a un truc qui m'agace prodigieusement, c'est un truc qu'on appelle les X. Alors vous savez peut-être pas ce que c'est, alors c'est pas les livres X, hein, Emmanuel, je vous rassure. C'est un X en fait en édition, c'est un livre qu'on nous propose à l'achat, sauf qu'on nous dit ni ce que c'est, ni le titre, ni l'auteur, ni de quoi ça parle.
Ça existe ça.
Ouais, généralement c'est le beau-frère de la belle-mère du chauffeur de la baronne qui a écrit un truc fracassant qui va voilà, et donc il faut pas le dire. Mais on nous propose de l'acheter quand même et c'est un truc qui m'agace prodigieusement. On peut pas faire autrement. On est obligé de l'avoir parce que tous les médias vont en parler, mais d'un autre côté, on ne sait pas combien en prendre si on ne sait pas ce que c'est.
Vous ne savez
m'agace.
Pas ce que c'est avant, en fait.
Ah non, on saura à la veille, c'est tout.
Très bien. Bon, merci pour ce coup de gueule. Au Canada, c'est Jérémy Laniel, l'autre terreur, qui vous emmène dans le rayon poésie. Avec, je suis sûr que vous avez choisi un coup de cœur.
Oui, un coup de cœur, Emmanuel. Je suis toujours là pour contrebalancer Grégoire. Coup de cœur pour Strange Fruits. C'est le dernier recueil de poésie de Jean-Marc Desjean. En quatrième de couverture de ce recueil, on peut lire que Jean-Marc Desjean est l'un des poètes les plus importants de la francophonie et j'adhère complètement avec cet énoncé. C'est rare que je suis d'accord avec les quatrièmes de couverture. Ici, s'inspirant de l'innommable, soit les attentats ayant frappé Paris, Desjean continue sa recherche du mal par l'éclatement de la langue, de la phrase, de la syntaxe. C'est une recherche le menant vraiment à des poèmes d'une violence qui sont sidérantes, mais si essentielles. Découvrez Desjean, c'est un poète d'une grande, grande beauté.
Et de Jean-Marc Desjean, donc aux éditions Poète de Brousse. Merci Jérémy.
Plaisir.
La librairie francophone, émission spéciale, Emmanuel Queyrade.
Nicolas Fargue est avec nous, mais aussi Yegor Gran. Bonjour Yegor.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous?
Bah, voilà. Impeccable.
Vous publiez un récit incroyable, très original, une correspondance qui se déroule en Nouvelle-Zélande et à Paris. Il est question du milieu littéraire parisien, de ce salon du livre, des libraires, d'une émission de radio. C'est un peu comme si vous aviez écrit le livre pour faire la librairie francophone aujourd'hui sur ce salon. Avant de vous lâcher, juste un mot sur le projet. Comment ça s'est passé? Vous le connaissez en fait? Vous êtes chez POL depuis 15 ans?
Oui, on se connaissait sans plus. En fait, j'avais lu Nicolas Fargue, lui avait lu mes livres aussi et on s'appréciait sans se connaître plus que ça. Et puis j'ai appris par une coïncidence qu'il partait en Nouvelle-Zélande en résidence d'écriture.
Ah, ça c'est vrai alors?
Ah oui, bien sûr. Et je me suis dit comme ça, bon ben il va, c'est quand même, ça va être assez pénible pour lui, il va s'ennuyer, c'est très loin. C'est aux antipodes, hein. Quand je dis aux antipodes, c'est pas du style, c'est réellement aux antipodes de la France. Et je me suis dit, c'est un projet qui me trottait dans, depuis pas mal de temps, je me suis dit, et si on faisait un roman en fait à deux? En échangeant des pistes littéraires.
Une correspondance, en fait. Alors, vous êtes très différents tous les deux. Yegor, vous écrivez de vraies fictions, vous êtes marié avec des enfants. Nicolas, c'est un peu le coureur de jupons qui se pose des questions sur sa vie à travers ses personnages. Il y a beaucoup de références à la sexualité de Nicolas Fargue, je trouve.
Alors il faut pas prendre ce livre forcément au pied de la lettre. Hein.
Ah bon, bah, je sais pas, oui, on m'a dit que c'était vrai, alors je sais plus.
Non, c'est vrai ou pas, c'est vrai si on veut, mais il faut quand même dire qu'une fiction, ça peut être aussi une fiction.
Vous êtes gêné là, Nicolas.
Non, pas du tout.
Vous avez des pouvoirs sexuels surnaturels.
Non.
Si je cite, c'est dans le livre.
C'est moi qui le dis. Hein, c'est moi qui le dis.
Ouais, c'est vous qui le dites.
Non, mais en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que Nicolas, donc de mon point de vue, est en Nouvelle-Zélande parce qu'il a un blocage littéraire et sans doute une aventure sentimentale qui a mal tourné. Je n'en sais pas plus et je le lance sur cette piste, en fait, sur laquelle il va rebondir et confirmer ou pas. Ce que je lui propose.
Bon, en tout cas, vous nous faites vivre vos vies en parallèle. C'est un questionnement sur la nécessité de vivre ou d'écrire. Nicolas Fargue part en résidence, c'est rémunéré en plus à Wellington. Et puis, vous faites pas grand-chose. Hein. Vous allez dans les bars, vous faites du vélo, vous faites de la plongée.
Non, il se passe pas grand-chose. L'intérêt de ce livre, s'il fallait essayer de donner aux gens envie de le lire, c'est de se dire que c'est à l'intérieur même des phrases. C'est-à-dire que il y a une histoire, bien sûr. Il y a deux personnes qui se racontent plus ou moins, mais c'est surtout au service d'une histoire. Mais c'est la langue elle-même qui est intéressante. Moi, pour vous dire exactement les choses, quand je recevais les lettres de Yegor, qui sont donc reproduites fidèlement ici, les miennes et les siennes dans le temps même où elles se sont écrites, eh ben, je rigolais à chaque fois. Je sais pas, je vais vous donner un exemple, si je peux me permettre.
Oui, bien sûr.
Il doit bien y avoir une moyenne. Entre toi qui couches comme tu respires et moi qui ne découche jamais, il y a un milieu, le centre de la Terre. L'immuable noyau où se concentrent toutes les gravités. Les moyennes s'y accumulent forcément. Tous ceux dont le verre est à moitié plein, les couilles à moitié vides, les tièdes, les rongeurs, les 11 sur 20, les écrivains de romans de 362 pages, les amants de 8,7 femmes au cours d'une vie, les meurtriers de 0,00012 victimes, les cardiopathes décédés dans leur 78e année. Juste un truc comme ça, ça vous donne une idée que ce livre, c'est avant tout une langue.
Oui, c'est une langue. Alors, vous critiquez aussi des choses au passage avec Yegor Gram, lui qui vit la vie parisienne, le milieu littéraire et le salon du livre de Paris. Voilà, où nous sommes là. Et vous dites, c'est une obligation pénible avec des égos comprimés.
Bah oui, il suffit de faire la queue à l'entrée. Alors, ce matin, il n'y avait pas tant de manque que ça, mais des fois, c'est chaud, hein, pour... Et tout le monde veut entrer, tout le monde veut aller signer son livre, etc. Sur les stands.
Vous sentez bien ici ou pas ?
Normal.
Moyen.
Moyen.
Ouais. Mais là, c'est devant tout le monde, là.
Ah, mais là, c'est formidable. Ah, avec une telle ambiance, forcément.
Bah oui, évidemment. Il y a Pamela, l'attachée de presse de POL. Alors, on connaît tous l'attachée de presse de POL quand on est dans ce métier, qui est là, d'ailleurs, dans le public, quelque part. Il s'appelle pas du tout Pamela, c'est un homme. Et Pamela, en fait, elle organise une tournée de libraires. Et vous dites, un libraire, c'est notre vache sacrée. Vexer un libraire, on le sait, c'est s'attirer le mauvais œil pour le restant de ses jours.
Oui, c'est pas une révélation pour aucun des écrivains présents sur ce salon. Enfin, je crois que vous interrogez 100% des écrivains, si vous leur injectez un petit sérum de vérité, ils diront, un, que le salon du livre de Paris, c'est extrêmement pénible. Deux, qu'il faut surtout jamais, jamais, jamais vexer un libraire. Enfin, c'est le béaba du métier de l'écrivain.
Bon, on va voir si les libraires vont vous vexer. On va commencer avec Grégoire Courtois qui est sur le plateau du Salon du Livre avec vous, qui est à l'autre bout. Heureusement, vous êtes loin.
Oui, je suis...
Vous avez lu ce livre, allez-y.
Oui, c'est moi qui commence alors, d'accord.
Oui.
Ok, je vois.
Effectivement,
parce que vous avez parlé d'humour et effectivement, en ce qui me concerne, on doit pas avoir le même humour, ça c'est évident. Parce que effectivement, j'ai vu le projet, j'ai vu qu'on était avec des personnages, beaucoup. Moi, j'ai plutôt vu des personnages que vraiment les auteurs derrière. Ça m'a un peu dérangé parce que pour moi, ça manquait un peu de sincérité. Du coup, parce qu'il y avait une espèce de paravent qui était mis comme ça, qui me dérangeait un petit peu. Et puis effectivement, cette espèce de concours d'aigreur, en fait, ça m'a vraiment lassé au bout d'un moment parce que j'ai pas vu autre chose. Alors il y a cette langue, mais vraiment, ça apparaissait de manière un peu trop rare.
Vous n'avez pas le même humour, c'est ça ?
Ah, pas du tout, non, ouais. Ça c'est sûr.
Ouais. Bon, écoutez, Annick Dor est en Belgique, elle n'est pas du tout d'accord. Annick ?
Oui, moi non. Alors c'est vrai que j'ai eu un peu peur au début qu'on se retrouve face à un jeu de ping-pong un petit peu stérile. C'était ma crainte, mais non. Moi, j'ai trouvé que votre complicité a un petit côté jubilatoire. On retrouve un Nicolas Fargue narcissique, mais toujours lucide. Et donc finalement, c'est ce qui vous rend attachant, sans doute. Et puis un Yegor Gran presque paternel avec ses conseils et ses initiatives. On sent aussi que c'est quand même plus construit qu'il n'y paraît au départ. Et donc, alors je ne sais pas si ça restera dans l'histoire littéraire, mais je trouve que ça a le mérite d'être amusant et plutôt subtil. Donc moi, j'ai passé un bon moment.
Voilà, vous ne pouvez pas faire l'unanimité avec ce livre, vous le savez.
Ah, c'est
obligatoire.
Bah, c'est parfait.
C'est parfait. Parfait.
Nous n'avons pas le même humour. C'est parfait.
Il est resté sur Grégoire. Bon, on croise Jean Echenoz, par exemple. On croise plein de monde, hein, comme ça. On croise aussi des attachés de production qui couchent volontiers dans les émissions de radio. Je vais vous présenter les miens. enfin les miennes, enfin il y a les miens, les miennes, il y a des garçons, des filles, vous choisirez. Il y a les filles de Grasset aussi, qui sont, dites-vous, vraiment bonnes par rapport à celles de Flammarion. À quoi ça sert?
C'est pas moi qui le dis.
Hein. Non, c'est
non, non. Pas, enfin, non, non, c'est pas moi, c'est un personnage oui, du livre bon, qui
oui.
le dit.
Enfin, vous, ah bah oui, relatez, mais ça,
c'est capital.
Oui.
Moi, je me permettrais pas, enfin.
Bah non, tu m'étonnes. À quoi il sert ce livre, Yegor?
Il sert à se faire un vrai plaisir jouissif d'écriture avec... c'est vraiment... C'est, est-on capable de rebondir sur les propositions, parfois farfelues, parfois non, de l'autre? Est-on capable, à son tour, ensuite, d'être généreux et de proposer à Nicolas quelque chose qui soit vraiment entraînant, où il puisse s'éclater à faire ce qu'il fait le mieux? Voilà, c'est ça.
Mais c'est vrai que c'est souvent plaintif, surtout chez Nicolas Farr. C'est vrai, Nicolas, on vous connaît, moi, je ne vous connaissais pas comme ça. Vous plaignez tout le temps, votre oui. anniversaire, ça vous gonfle. Vous êtes oui, né oui. en mars, d'ailleurs. Oui. Bon anniversaire, Nicolas.
Non, non, merci, merci, merci.
Vous détestez quand vous le souhaitez. Enfin, vous râlez tout le temps.
Non, non, mais l'idée, c'est d'accentuer les traits à chaque fois. C'est ça qui rend, à mon sens, le livre comique, lorsqu'on le trouve drôle. C'est de jouer sur la caricature.
Ouais, ouais.
Tout en faisant passer, en contrebande, entre les lignes, parfois quelques petits messages, appelons ça comme ça. Mais c'est avant tout un plaisir d'écriture, mais de lecture, j'espère. C'est-à-dire que c'est un livre, certes, qu'on pourrait qualifier de léger, disons comme ça, mais ça a aussi ses avantages. C'est-à-dire que vous pouvez, je crois, rire en apprenant des choses. Alors, sans forcément vouloir savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, c'est pas le problème. C'est simplement se laisser entraîner.
Mmh. C'est vrai ça. Qu'on se laisse entraîner.
On a chacun notre œuvre derrière qui est très différente, mais là, on se rejoint là-dessus. C'est ça qui est intéressant. C'est un livre bicéphale. Ça ne se fait pas tous les jours.
À propos de la rentrée littéraire, vous dites concourir en tant qu'auteur dans une rentrée littéraire. Tu le sais aussi bien que moi. Cela n'a de sens que si l'on publie son premier roman ou que l'on s'appelle Éric Emmanuel Mouskinos.
Qui c'est, ça, Mouskinos, on se demande bien.
Alors, moi, je sais.
Ah, vous savez,
Éric-Emmanuel Schmitt, que l'on salue, qui nous écoute régulièrement. Musso, qu'on ne connaît pas. Moi, je ne le connais pas dans cette émission. Et David Fuenkinos, qui est un ami de l'émission. Voilà, c'est ça.
On s'en était pas douté, du tout.
Vous détestez les Français, Nicolas Fargue?
Ah, pas du tout.
C'est ce que vous dites en Nouvelle-Zélande.
Oui, mais je vous dis, c'est un livre qu'il faut prendre avec pas mal de distance, pas des pincettes, mais de la distance, c'est très ouais. important, pour essayer de rentrer dans cet humour un peu particulier, je le conçois, mais humour quand même, je
ouais,
pense.
Oui, c'est vrai.
Mais je déteste pas les Français, je suis, je le dis à un moment, moi-même, un Français dans tous ses excès, bien sûr.
Lesquels excès?
Pardon? Bah, je sais pas, se mettre en colère, le sens du débat pour tout et pour rien, la volonté de donner son jugement sur tout, voilà, je le suis.
Ouais. Qu'est-ce qui est positif, dit Igor Gran, dans le petit monde littéraire parisien?
Oula, ce qui est positif, c'est que c'est un aquarium. Donc, quand vous êtes habitué à la chaleur de l'eau, eh bien, finalement, vous y nagez. C'est assez plaisant, voilà.
Ouais.
Maintenant, si vous regardez trop de l'autre côté de la vitre et que vous voyez le monde réel, peut-être que vous serez un peu frustré par rapport à ce que vous voyez. Ou il y aura peut-être, voilà. Il faut pas trop se centrer sur ce milieu-là.
Bon, merci beaucoup. Nicolas Fargue, mesdames et messieurs, et Yegor Gran. Je vous montre leur livre, Écrire à l'élastique, est paru donc chez POL. Merci à tous les deux.
Merci.
Vous êtes des fidèles de cette émission. On vous aime beaucoup, vous le savez.
Merci. Hein,
rien n'est jamais méchant chez nous. Merci. Vous verrez avec Grégoire, par contre, à la fin. À bientôt. Vous restez là. Ça va, Grégoire?
Ça va très ouais, bien.
Dans cette plus grande librairie du monde, on part en Suisse ou presque, elle est juste à côté de vous. Dominique Bressoux, coup de gueule ou coup de cœur?
Coup de cœur, un coup de cœur pour Nu dans un verre d'eau de Fanny Woopman aux éditions Flammarion. Alors, l'histoire peut sembler banale, c'est une rencontre quotidienne entre une grand-mère mourante et sa petite fille, qui est une trentenaire enceinte. Mais c'est l'écriture à la fois extrêmement crue lorsqu'elle montre la déchéance physique de la grand-mère et très très poétique, tout en retenue et en pudeur pour décrire les sentiments des deux protagonistes, qui rend ce roman très très prenant. On est là dans un style vraiment particulier aux écrivains suisses, qui est en retenue, en pudeur, ça se devine plus que ça s'expose,
ouais, ouais.
Et c'est comme des reflets dans un verre d'eau.
Avec un très... Oh, bravo ah. Très joli titre, belle chute, bravo Dominique. Nu dans un verre d'eau, c'est pour Nicolas Fargue, voilà. Et c'est aux éditions Flammarion. Merci, Annick Dor est en Belgique. Un coup de gueule, Annick?
Oui, un coup de gueule, oui. Emmanuel. À l'encontre du découpage des albums en format de 48 pages, alors c'est très fréquent et c'est assez énervant parce que, d'après moi, c'est souvent trop court.
Ah, en bande dessinée.
On a des albums, du coup. Voilà, en bande dessinée, oui. On a des albums, du coup, qui n'ont pas beaucoup d'intérêt tout seuls. Souvent, il faut attendre que les tomes suivants sortent pour que l'ensemble ait un peu de consistance. Alors, pour donner un exemple, je sais que vous aimez les exemples, Emmanuel. Eh bien, je pense aux survivants, par exemple, chez Dargo, que l'on doit à Léo. Hein, le cinquième tome vient de sortir. Alors, c'est une très, très chouette histoire dans l'absolu. Mais par album, je trouve qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et c'est un peu dommage.
Oui, bah, en fait, c'est le format traditionnel, Annika, vous le savez, vous.
Hein. Oui, mais avant...
De la bande dessinée franco-belge. On fait 48 pages, 52, 54.
Bien sûr, mais il y en a eu qui fait 62. Oui, c'est ça.
Ouais, enfin, mais c'est 48, RG, Franquin,
c'est court,
tout ça.
Quand même. Bah, oui. C'est court. Tout cela, c'était 62, c'était pas 48.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'était 62.
Non, c'était plus long, clairement.
Bon, merci, merci Annick. La librairie francophone avec Flora Orima de Vatine, Yegor Grad, Nicolas Fargue et le Maroc invité d'honneur de cette 37e édition avec Abdelataya, Marie Binbin et la grande chanteuse marocaine à la carrière internationale Indizara qui est installée sur le plateau de la librairie francophone ici au Salon du Livre de Paris pour un titre en direct. Bonjour Indizara.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ça va.
On est ravis de vous avoir, on est vraiment très honorés. C'est un grand honneur de vous avoir sur ce Salon du Livre de Paris. Vous jouez rarement en public, à la guitare, comme ça, en version acoustique, dans ces conditions en plus, assez difficiles, hein, parce qu'il y a énormément de monde autour de nous. Merci beaucoup. Vous interprétez donc face à nous, Ayawa. Et mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Indizara.
Nani taf tghalli trit Nani tufi tafukt Wakhak inni bil bhar ulai gharashn Iraddi tashki tayit zat Ahya wa mani trit Ahya wa mani trit Mani trit اني طاف تخلي تريت حيالي 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 طافت وخاك اني بي البحر ولا يغرسني ردي تشكي دايت زارت وخاك اني بي البحر ولا شني ردي تشكي تايت صوت أهي واو ماني تريد أهي واو ماني تريد ماني تريد ماني تريد لا 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 لا
Indizara, applaudissez Indizara, s'il vous plaît, en direct ici au Salon du Livre de Paris pour la librairie francophone. Merci beaucoup Indizara, Ayawa sur ici Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter. Venez vous installer en plateau, vous avez une chaise, regardez juste au-dessus de ce petit plateau improvisé musical avec un micro sans fil. Vous serez au festival Gnawa et Musique du Monde à Essaouira au Maroc qui rassemble des artistes du monde entier. Festival qui fête ses 20 ans. Ce sera du 29 juin au 1er juillet. Et puis il y a un concert ici à Paris au Bataclan. Triste histoire du Bataclan aujourd'hui, mais c'est symbolique aussi au Bataclan lundi pour les 20 ans du festival où vous serez également Indizara.
La librairie francophone, émission spéciale, Emmanuel Guérade.
au Salon du Livre de Paris avec Marie Binbin, Abdelataya, qui sont dans cette librairie pour deux romans fabuleux. Bonjour Abdelataya.
Bonjour.
Tous les deux, vous décrivez un pan de la société marocaine dans deux contextes complètement opposés. C'est très troublant. Le Maroc est une société complexe, partagée entre la monarchie, avec une bataille citoyenne pour les droits de l'homme. On peut imaginer ça, on peut dire ça.
Le Maroc est un pays évidemment très complexe. Il y a des Arabes, il y a des Berbères, il y a les gens du Nord, des gens de l'Atlas. Mais ça ressemble aussi à tous les mélanges qui se trouvent dans d'autres pays, comme par exemple la France.
Ouais.
Donc nous sommes tous les deux Marocains. Je pense que ça nous autorise à parler de toutes les complexités de ce pays et à critiquer ce qui se passe dans ce pays et à critiquer aussi même le pouvoir au Maroc.
Ouais. C'est une société moderne pour vous, Indizara. Vous dites ça souvent, le Maroc est une société moderne et moi ce que je veux faire justement c'est dresser des ponts entre les cultures.
Oui, je pense que c'est aussi un exemple de coexistence pendant des siècles de cohabitation entre différentes religions, différentes cultures et différentes influences. Et la richesse aussi de notre, j'appelle ça même un statut géographique, c'est-à-dire de faire partie de l'Afrique. Et puis d'être en face de l'Europe, d'avoir cette culture méditerranéenne. Je pense que c'est un pays aussi de croisement des cultures et c'est une richesse, oui.
Ouais, vous saluez la culture hybride du Maroc.
Absolument, ouais. et c'est aussi une culture créole.
Oui, ouais, complètement. Alors Abdelataya, votre histoire est terrible. Hein. Vous évoquez l'homosexualité d'Ahmed et de son meilleur ami. Quatre longues lettres racontent à des périodes différentes ce que vivent les protagonistes de votre histoire. Et ils souffrent tous considérablement. Ils ont les morts qui hantent leur vie, la société qui est un poids. Ils sont dans l'échec de leur vie, c'est ça ?
Ah, ils sont dans la souffrance, ils n'arrivent pas à en sortir, mais Ahmed vit à Paris. Et s'il y a un échec, c'est aussi par rapport à ce qu'il vit en tant qu'arabe, en tant que musulman immigré en France.
Il est parti à l'âge de 17 ans.
Il est parti à l'âge de 17 ans et il a fait un pacte avec un Français qui s'appelle Emmanuel. Il est arrivé en France, à Paris, dans le 5e arrondissement, sauf que Emmanuel, au lieu de l'aider à rester en contact avec sa première peau, il va tout faire pour le transformer en un petit Parisien, bien comme il faut, intellectuel, qui cite bien les références qu'il faut.
Oui, c'est-à-dire qu'il n'est pas assez intégré pour lui, il n'est pas assez français, il n'est pas assez viril aussi. Et pendant 13 ans, cet Emmanuel, hein, comme quoi il y a des Emmanuels qui sont un peu salauds, il va le façonner, il va contribuer à le détruire moralement.
Bah, en tout cas, le roman est plus nuancé que ce qu'on est en train de dire, parce que
ça se vit comme ça, ça se lit comme ça. Hein.
J'ai essayé. C'est un roman rempli de colère, rempli de violence, mais ce n'est pas une charge contre Emmanuel. Il, à un moment donné, le Marocain, en tout cas dans la troisième lettre, il éprouve le besoin de s'émanciper encore une fois parce qu'il n'avait jamais pensé qu'il faudrait un jour s'émanciper aussi de la langue française. Il croyait qu'il allait trouver de la liberté dans cette langue et dans ce pays qu'on appelle la France. Il se rend compte aussi, parce qu'il y a le passé colonial de la France, que la manière dont la France accueille encore les immigrés arabes, musulmans, même quand ils sont PD, homosexuels comme lui, c'est pas encore ça. Donc il est très important pour lui donc, de quitter ce personnage Emmanuel avant qu'il ne soit trop tard.
Avant qu'il ne soit trop tard. C'est vrai que c'est très triste et on suit comme ça ce croisement de récits parce que c'est à plusieurs périodes. Et on se raccroche comme ça à la vie d'Ahmed parce que, à travers la lettre d'un de ses amants, à travers sa lettre à sa mère, à travers sa lettre à Emmanuel, on arrive à tricoter l'histoire comme ça.
En tout cas, le roman s'ouvre par une lettre, en l'occurrence terrible, adressée à la mère d'Ahmed qui est décédée. Et en l'occurrence, il se permet de la critiquer, de faire par la même occasion son autocritique. Pour que plus tard, on puisse arriver à cette critique du colonialisme français et de la langue française. Donc, ce n'est pas un roman du tout à charge contre le français, contre la France, mais plutôt de dire qu'il est le destin, qu'il est la vie aujourd'hui d'un jeune Marocain homosexuel qui vit à Paris, qui croyait qu'il allait trouver toute la liberté en France, mais ce n'est pas le cas. Et donc, pour lui, il est essentiel à ce moment-là de continuer son émancipation. Et l'idée d'écrire un roman avec des lettres, ce sont des lettres qui, à chaque fois, disent une nouvelle tentative d'émancipation.
Vous écrivez « Chaque matin, je me renie, j'ouvre les yeux, je me rappelle que je suis homosexuel. J'ai beau avoir fait tout un travail pour m'accepter, me laver des insultes, j'ai beau me répéter depuis des années que j'ai le droit de vivre libre, vivre digne, vivre, rien n'y fait. »
Vous savez que même en France, alors qu'on a des droits qui protègent les homosexuels et tout ça, ce n'est pas encore totalement réglé, cette histoire d'être homosexuel en France. Les homosexuels sont encore obligés, même quand ils sont intellectuels, ils sont encore obligés de faire de l'autocensure. Ils ne peuvent pas totalement être eux-mêmes face à l'hétéronormativité, à toutes les histoires des hétérosexuels qui envahissent le... C'est pas pour dire que l'homosexualité doit primer ou doit... Mais la condition même de l'homosexuel, même en Occident, n'est pas encore totalement réglée. On l'a vu d'ailleurs très bien quand il y avait cette histoire de mariage homosexuel en France. On a vu ce qui s'est révélé, ce qui s'est réveillé, même dans un pays qui se dit, qui se veut libre comme la France.
Mais au Maroc, ce n'est pas convenable, ce n'est pas acceptable.
En Maroc, le problème, il est politique. C'est la loi. C'est la loi qui continue de considérer les homosexuels comme des criminels. Dans la réalité des faits, c'est beaucoup plus complexe que cela.
Deux libraires ont lu votre roman, Abdel Attaya. Suisse ou France ? Tiens, on commence par qui ?
La France.
La France. Vous choisissez le moins facile. Vous avez raison. Grégoire Courtois.
Écoutez, moi, j'avais jamais lu encore vos livres, Abdel Attaya, et j'ai été absolument charmé par cette langue, hein, surtout. Moi, c'est ça qui m'a le plus frappé. Alors, dans ce roman-là, j'ai hâte de lire les autres, mais dans ce roman-là, quelque chose de très court, de très sec, je parle de la phrase en elle-même qui est percutante, qui est agressive, ça donne quelque chose de très fort et ça fait entrer vraiment dans l'intimité de ce personnage. Moi, je trouve pas vraiment de distinction très très forte et marquée entre les différentes lettres, même quand parfois elles ne sont pas écrites par la même personne, mais en tout cas, il y a cette force qui en fait entrer dans l'intimité et qui est vraiment le grand point fort de ce roman.
Dominique Bressou, êtes-vous d'accord pour la Suisse ?
Moi, j'ai été extrêmement émue par ces lettres et certains passages m'ont même fait venir les larmes aux yeux et les larmes de libraire, j'aime mieux vous dire que c'est plutôt rare. Les cris de révolte de Harmet, son angoisse, ça prend à la gorge et on ressent très profondément son mal-être. Mais ce qui élargit le propos du roman, au-delà de la douleur de se voir refuser son identité par les autres, c'est qui conduit à se poser la question jusqu'où on peut aller en oubliant qui on est.
C'est ça. Alors il y a à côté de vous Marie Binbin qui est avec nous pour parler de son roman absolument sublime, Le Fou du Roi. Il y a dans cette famille un fils préféré. Et c'est vrai que chez vous, Abdel Attaya aussi, il y a l'enfant préféré par la mère. Et ça, c'est caractéristique de la famille marocaine. On a toujours, en tout cas, un enfant comme ça, souvent le fils aîné. Alors en tout cas pour vous, Marie Binbin, c'est le cas. Le fils aîné est souvent celui qui a les faveurs de la mère.
En général, le préféré, c'est soit l'aîné, soit le tout dernier.
Ah oui, oui.
Donc là, c'est, en l'occurrence, c'est l'aîné.
Alors, il y a ce fils qui a été emprisonné, loin de sa famille, suite à une trahison, un coup d'État avorté contre le roi. C'est absolument terrible parce que la mère perd son fils. Il part comme ça pendant 20 ans au bagne.
Alors, je viens d'une famille assez curieuse, où mon père a été courtisan du roi Hassan II pendant 35 ans, et mon frère, jeune officier, a participé au coup d'État d'Esquira de 71, c'est-à-dire il est rentré avec des armes au palais alors que le père était caché avec le roi dans une cave. Et voilà, moi je suis né au milieu de cette affaire. Les officiers ont été condamnés à quelques années de prison, mais après le roi les a emmenés dans un bagne qui s'appelle Tazmamat, qui est une horreur totale. On a mis des gens dans le noir sous terre pendant 18 ans. Et voilà, donc moi je suis né un peu entre...
Donc c'est votre histoire, c'est ça ?
C'est-à-dire
que l'histoire que vous racontez dans Le Fou du Roi, avec la vie de Mohamed, le fou du roi Hassan II, qui lui est totalement dévoué, c'est votre père.
C'est vraiment mon père. C'est vraiment mon père. Et pour garder son job après le coup d'État, il a dû renier son fils, le renier publiquement. Et du coup, je n'ai plus revu mon père pendant très très longtemps, pendant une quinzaine d'années. Je l'ai trouvé un peu lâche, je l'ai trouvé un peu... Et quand mon frère sort de Tazmamat, 18 ans plus tard, la première chose qu'il trouve à me dire, il me dit « Tu m'emmènes voir papa ?» Je dis « C'est pas possible, tu vas pas aller voir ce type. » Il m'a dit « Tu m'emmènes voir mon père ?» Et donc, je l'ai emmené voir son père. Et quand ils se sont retrouvés... Ils sont tombés les bras l'un dans l'autre, ils ont pleuré. Et c'est ce que je raconte un peu dans
ce... Oui, c'est ce que vous racontez dans le livre, avec ce fils qui rentre un jour, après 20 ans de bagne, il arrive à la maison, la mère le reconnaît à peine, parce que du jeune homme athlétique, il est devenu un vieillard décharné. En tout cas, il a les allures d'un vieillard décharné. Et ça aussi, donc, vous l'avez vécu comme ça ?
Au départ, ma mère qui a attendu mon frère pendant 20 ans, parce qu'il a passé 20 ans, elle l'a attendu avant de mourir. Et quand la première image, c'est, on lui a amené un petit bonhomme rachitique, comme s'il sortait d'un camp nazi. D'ailleurs, c'était une espèce de camp. Hein. Et la première image, c'est qu'elle a dû se dire, on me l'a changé, c'est pas lui. Ouais, parce qu'il était grand, il était costaud. Et du coup, on lui ramène une petite chose cassée en deux. Il avait perdu 40 centimètres. Et voilà.
Est-ce que vous en voulez à la monarchie marocaine de permettre comme ça ces pratiques d'un autre temps quand même, hein, parce que...
C'est-à-dire, quand j'ai emmené mon frère voir papa, parce que maintenant je l'appelle papa, puisque ce livre m'a permis de me réconcilier avec lui, en revenant de Rabat vers El Jadida, on était en voiture tous les deux, il m'a dit, tu sais, à Tazmamal, dans mon bâtiment, nous étions 29. Il y a eu seulement 4 survivants. Et ceux qui ont survécu sont ceux qui n'avaient pas de haine à l'intérieur d'eux-mêmes. Parce que quand tu portes la haine en toi, elle te détruit toi si jamais elle touche l'autre. Donc, il m'a dit, je n'ai de haine ni envers le roi, ni envers mon père. C'était mon destin. Il est devenu assez religieux. Et voilà, quoi.
Il était apaisé, quelque part.
Il était apaisé. Et puis, finalement, je me suis réconcilié avec mon père. Et ce livre-là est un livre de réconciliation et un livre de paix.
Ouais, voilà. Ouais. Et vous le racontez tout ça, hein, vous le dites ça, hein, qu'il est dans la paix, etc. Il y a un passage très émouvant où il raconte à sa mère qu'il n'a pas la haine et qu'il a tenu grâce à ça parce qu'il n'a jamais eu de haine, ni pour le roi, ni pour son père. On va laisser la parole à Jérémy Laniel qui est au Canada. Que pensez-vous du roman de Mahi Binbin, Jérémy?
Ah bien, cette histoire de Binbin a tellement des relents de mille et une nuits qu'on a peine à croire que l'auteur a été épuisé dans une anecdote familiale pour nous livrer ce roman. Pourtant, l'honnêteté avec laquelle il porte ce roman, la sincérité de la phrase, ça nous emporte dans des contrées qui, force est d'admettre, ne sont pas si lointaines, déstabilisant et fascinant à la fois, vraiment.
Vous êtes aujourd'hui, Mahi Binbin, le peintre le plus connu au Maroc. Peignez-vous pour la cour? Pour le roi?
c'est un bon client.
Ah, vous peignez pour lui?
Enfin, il achète mes tableaux, tout le monde les achète.
Ça ne vous pose pas de problème avec votre passé
non,
familial?
Et c'est curieux parce que je peins beaucoup l'enfermement, presque l'histoire de son père, et il l'achète quand même.
Hein. Alors, vos personnages, il faut le dire, ils portent souvent des fardeaux. Les corps sont entremêlés, bloqués dans leurs mouvements, bloqués aussi par des blocs de pierre. On peut imaginer que vous faites passer un message. C'est l'image des Marocains qui sont entravés.
Ben parce que nous avons vécu pendant 40 ans sous une dictature. Hein. Il faut appeler les choses comme elles sont. Nous avions peur. Vraiment, c'est-à-dire, si le nouveau roi n'avait pas entamé des réformes très vite, pendant le printemps arabe, la monarchie serait sans doute tombée.
Ouais, c'est la parole à Annick Dor en Belgique qui veut intervenir. Annick.
Oui, mais c'est vrai qu'en lisant votre roman, on perçoit en filigrane, c'est vrai, toute la dureté du régime, la sévérité du roi pour qui finalement la vie d'un homme ne diffère pas beaucoup de celle d'un insecte, hein, c'est vous qui le dites. Il y a toute cette image évidemment affreuse de votre frère qui croupit pendant 20 ans dans une geôle. Et sinon, par contre, comme votre personnage, vous arrivez malgré tout ça à raconter à merveille les histoires, vraiment pour le plus grand bonheur du lecteur. Donc moi j'ai trouvé que c'était un magnifique livre, tout en finesse, et qui laisse voir finalement un univers particulier avec tous les codes qu'il suppose que cette cour d'Hassan II.
Est-il risqué pour vous, Mahi Binbin, de publier un livre comme celui-ci?
Plus maintenant. Maintenant, on peut écrire. On peut écrire sur l'homosexualité, on peut écrire sur les abus de pouvoir, on peut écrire, on nous casse pas la figure, on nous emprisonne pas. Non, le Maroc s'ouvre, il faut dire les choses. Il y a des choses qui vont pas, il y a des choses, par exemple, sur l'homosexualité, il faut changer, il y a des lois qu'il faudrait bannir, parce que criminaliser l'homosexualité est une chose absurde. Il y a des choses qu'il faut changer, mais je pense que le Maroc est un pays qui est en train de bouger.
Hein. Abdellah Taïa, vous êtes d'accord?
Quand je reviens voir mes sœurs et mes neveux et nièces, je constate quand même que les mêmes conditions de pauvreté dans lesquelles je suis né, dans lesquelles j'ai grandi, sont encore là et que je vois ce qui aurait pu m'empêcher, moi, de venir jusqu'ici, jusqu'à l'an du Livre de Paris, devenir écrivain. Toutes ces conditions existent encore au Maroc et ce qui s'est installé depuis à peu près 20 ans au Maroc, c'est quand même une société de consommation effrénée. Donc j'ai l'impression que les pauvres d'avant ont été cachés par une nouvelle génération de pauvres. Et ça, c'est triste.
Indy Zara, l'expression culturelle, littéraire, musicale. Vous êtes peintre, hein, vous aussi, Indy Zara. cette expression, elle est libre au Maroc aujourd'hui. Vous la ressentez comme ça, vous ?
Moi, en tant que chanteuse, je suis libre de m'exprimer. Je pense, comme je suis absolument d'accord avec Mahi Binbin, au sujet du droit d'expression, ça, on l'a. Et après, il faut savoir que le Maroc est un pays en transformation. Je suis d'accord, c'est un pays consumériste, mais comme tous les autres, malheureusement, on suit ce chemin de la mondialisation. Mais j'ai l'impression qu'on peut éviter de rentrer dans cette industrialisation à outrance, que le Maroc pense beaucoup à l'écologie, qu'il y a eu des changements au niveau de la situation sociale aussi des pauvres, puisque le roi a enlevé tous les bidonvilles, et ça a été important aussi. Et je vois l'angle écologique marocain très intéressant et vraiment un puits pour les futures générations, et je souhaite rester positive.
Et l'artiste vient du peuple, vous le dites ça, c'est très important, vous le soulignez souvent. Vous dites que l'artiste ne vient pas des hautes sphères, c'est pas Lady Gaga. Enfin, au Maroc, l'artiste vient du peuple. Je cite Lady Gaga parce que vous l'avez cité un jour dans un article où vous disiez, voilà, c'est pas ça le monde artistique pour nous.
Je pense que la majorité des artistes marocains, en tout cas au Maroc, viennent du peuple. En tout cas, je vois souvent le Maroc comme le Mexique, c'est-à-dire l'art populaire est essentiel au peuple et à toutes les castes, en tout cas marocaines, qu'elles soient. Ce qui est intéressant, c'est de voir Chirat, qui est vraiment la musique populaire, être jouée dans les plus grandes maisons et un peu partout dans tous les milieux sociaux.
Merci beaucoup Indizara, merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir Indizara. Votre dernier album, Homeland, est sorti chez Parlophone. Mahi Binbin, merci à vous.
Merci
Abdellah Taïa. Le Fou du Roi, c'est chez Stock, et Celui qui est digne d'être aimé est sorti aux éditions du Seuil. Merci à vous, merci beaucoup.
La librairie francophone, Emmanuel Guérad.
Avant de conclure, coup de projecteur sur un artiste francophone avec le duo français Isaac Delusion. Cajun d'Isaac Delusion avec un extrait de leur nouvel album à paraître le 7 avril et un titre à retrouver en intégralité sur internet. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup au public de Paris, ici au Salon du Livre. Merci à vous, je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Serge Gandon avec Rémi Gouriou et Christophe Michou, Djoubaka la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Marie-Louise Dubois en France, Martine Béguin-Felet, Annick Chouin en Suisse, René Mikils avec Valérie Le Put en Belgique, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. Merci à vous, merci à Yegor Gran, merci Nicolas Fargue, à très bientôt, à bientôt à vous. Bon Salon du Livre de Paris, à la semaine prochaine, même jour, même heure, sur votre radio francophone. Salut.